J'aimerais tout d'abord exprimer ma reconnaissance pour deux choses au moins. La première, c'est pour votre accueil toujours aussi chaleureux. Il fait bon d'être ici, vraiment. Et je vous remercie pour cela. Et la deuxième chose, c'est cette opportunité finalement que je saisis de concrétiser tout à nouveau notre désir d'étoffer nos relations entre nos deux églises. L'église du CEP de Saint-Maur qui est à 10 minutes non loin d'ici et l'église CM ici. Je suis très heureux pour cela aussi et j'exprime ma reconnaissance. Il y a des prédications qui sont plus difficiles à préparer que d'autres. Celle-ci en fait sans doute partie. Il y a certaines fois des larmes qui sont versées, même lorsque il nous faut préparer ce que Dieu veut dire à son peuple. Et celle-ci en fait partie. C'est pourquoi j'aimerais encore une fois juste demander à Dieu son aide pour ouvrir nos oreilles, nous rendre attentifs tout à nouveau. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous maintenant par ton esprit, ce même esprit qui a inspiré les auteurs de cette Bible que nous avons entre nos mains. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus. Amen. On peut baisser encore. Voilà. Nous sommes en 1944. La Seconde Guerre mondiale sévit et plonge l'Europe dans l'effroi, la torpeur, la tristesse. Quotidiennement, des milliers d'hommes tombent sur les différents champs de bataille. Femmes et hommes sont torturés, et cette torture, le cri de leur torture, se fait entendre dans les campagnes européennes. Mais tout à coup, un événement se produit à Auschwitz. Deux adultes et trois adolescents sont sur le point d'être exécutés. Le moment arrive. Une foule immense contre son gré, pour témoin, aperçoit que chacun d'entre eux prend place sur un petit tabouret. Chacun se passant, devant se passer eux-mêmes la corde autour du cou. Et voilà. Voilà que les SS font basculer les cinq tabourets. Et la foule constate avec épouvante les corps se balançant de droite à gauche. Tout à coup, une voix se fait entendre parmi la foule. Où est Dieu ? Où est le Dieu de la justice ? Parmi les cinq individus, quatre sont morts sur le coup. Mais l'un des enfants est encore en train d'agoniser devant la foule qui n'a pas le choix de devoir regarder. Alors la même voix se fait entendre à nouveau. Où est Dieu ? Où est le Dieu de la justice ? Pourquoi permet-il une telle souffrance ? Voilà deux questions auxquelles notre texte de ce matin apporte quelques éléments de réponse, en nous suggérant quatre grandes leçons pour nous aujourd'hui. Vous vous en doutez, le texte est dense et long, et donc je n'essayerai que de vous transmettre la cohérence d'ensemble de ce cycle des sept trompettes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après pour qu'on prolonge l'échange. Mais la première leçon émane des chapitres 8 et 9 que nous avons lus. Et elle n'est pas simple. Dieu permet des maux pour alarmer une humanité rebelle. Vous avez bien entendu. Dieu permet des maux pour alarmer une humanité rebelle. Comme chacun des sept cycles dans le livre de l'Apocalypse, le cycle des trompettes du chapitre 8 à 11 nous ouvre une fenêtre sur l'histoire du monde, l'histoire de notre monde, depuis l'événement crucial de l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à son retour triomphal. C'est le cadre historique de chaque cycle. Et comme à son habitude, Jean nous dit que les événements qui vont prendre place dans ce cadre historique n'échappent pas à la souveraineté de Dieu. Regardez verset 2. Sept trompettes furent données aux anges. Un passif divin ici. C'est l'agneau d'Apocalypse 5, celui qui est assis sur le trône, qui donne ses trompettes aux anges. Autrement dit, dans tout ce que ces trompettes déclencheront, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien ne le prend de court. Rien n'est fortuit. Alors les six premières trompettes retentissent, chapitre 8 et 9. Elles nous parlent de fléaux qui causent des maux à l'humanité. Des fléaux de manière imagée, mais très suggestive. Regardez. Verset 7, la grêle. Verset 8, l'eau changée en sang. Chapitre 9, verset 7, les sauterelles. Cela ne vous rappelle rien ? Bien sûr. Bien sûr. Jean présente ses fléaux sur toile de fond des dix plaies d'Égypte. Et cette toile de fond est très suggestive pour nous. En effet, elle nous invite à comprendre les fléaux des six premières trompettes comme étant des jugements de Dieu qui s'abattent sur une humanité qui lui est rebelle, qui est rebelle à Dieu et qui opprime son peuple. Car tel fut le cas des dix plaies d'Égypte, n'est-ce pas ? Les quatre premières trompettes forment un ensemble. Et les fléaux qu'elles déclenchent affectent le monde naturel. Verset 7, la terre. Verset 8, la mer. Verset 10, les sources d'eau. Verset 12, les astres. Mais elles affectent aussi par voie de conséquence l'humanité. Verset 7, la destruction de la végétation. Verset 8, de la faune marine. Verset 9, destruction des bateaux. Empoisonnement des eaux, verset 11. Verset 12, obscurcissement des astres. Certes, les modalités d'exécution de ces fléaux ne sont pas décrites par Jean. Mais nous voyons, en tout cas, à travers ces images assez suggestives, que ces fléaux privent de denrées alimentaires, d'eau potable, compromettent l'activité économique, entravent l'activité humaine. Autrement, tout porte à croire que ces fléaux se concrétisent aujourd'hui par ce que l'on pourrait appeler des orages violents, des canicules, des cyclones, des typhons, des tremblements de terre, des tsunamis ou encore peut-être des éruptions volcaniques. Jean nous invite, semble-t-il, à interpréter ces catastrophes naturelles de manière imagée comme le signe que l'humanité, une humanité qui s'enfonce dans le mal, une humanité qui est en proie au jugement de Dieu. Où est le Dieu de la justice ? Il est là. Il est déjà à l'œuvre dans l'histoire, aujourd'hui, et commence à juger aujourd'hui partiellement le mal et l'injustice d'une humanité rebelle. Le monde est en proie au jugement de Dieu pour le mal qu'il commet et sa rébellion. Et les trompettes 5 et 6 forment un autre ensemble et sont qualifiées, verset 13, de malheur. Pour la trompette numéro 5, je suis porté à croire que l'astre tombé du ciel, verset 1, représente symboliquement Satan, le diable. Et Jean nous dit, verset 3, que Satan libère une horde de sauterelles, langage imagé, hein, bien sûr, sur toute la terre qui représente symboliquement un mal terrible qui sévit dans le monde. Mais ce mal est restreint, verset 4, regardez. Elles reçurent, ces sauterelles donc, qui représentent un mal que Satan impose, elles reçurent l'ordre de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu. Le sceau, c'est une image que l'on retrouve dans les chapitres précédents qui symbolise les hommes et les femmes marqués par Dieu comme signe d'appartenance. Mais ce fléau-là ne peut pas atteindre le peuple de Dieu en qualité de jugement. C'est ce que Jean veut nous dire ici. Et le mal qui sévit est terrible. Regardez verset 5. Torturer l'humanité. Je suis enclin à penser que derrière ces fléaux, nous pouvons y voir peut-être les nombreuses pensées suicidaires qui frappent malheureusement nos contemporains. Le sentiment d'insignifiance qui détruit la psychologie de beaucoup. Ou encore les dépressions permanentes. La tyrannie du sentiment de culpabilité, ou encore le sentiment chronique d'insécurité, ou encore pensons aux tourments que cause le péché au sein des familles et de la société. Je précise que si des chrétiens vivent cela, ce n'est jamais en signe du jugement de Dieu. Mais c'est simplement qu'ils prennent part eux aussi à la malédiction qui repose sur l'humanité parce qu'elle s'est rebellée à Dieu. Mais ne doit jamais vivre, le chrétien ne doit jamais vivre s'il lui arrive de vivre ces choses que j'ai évoquées comme un jugement de Dieu. Ça n'a rien à voir avec cela. Sans rentrer dans le détail, la sixième trompette, chapitre 9 et versets 13 à 19, a des allures de films d'horreur. Netflix n'a qu'à bien se tenir, je crois. Vraiment. Nous avons l'image d'une armée indénombrable, porteuse de fléaux impensables, et pourvue de caractéristiques vraiment terrifiantes. Une armée animée d'un seul objectif, versets 15 et versets 18, exterminer un tiers de l'humanité. De ce tableau ressort, me semble-t-il, le thème de la mort violente, si je devais le résumer. Une mort dans de grandes souffrances. Pensons aux guerres, et nous y sommes sensibilisés en ce moment, aux famines, aux épidémies, aux maladies. Pour faire simple, ce tableau signifie qu'une partie de l'humanité ne va pas mourir tranquille dans son lit. Où est le Dieu de la justice ? Il est là. Il est déjà à l'œuvre dans l'histoire et commence à juger aujourd'hui partiellement le mal et l'injustice d'une humanité rebelle. Le monde est en proie au jugement de Dieu. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans notre texte. Avez-vous remarqué ce qui déclenche ces fléaux ? Avez-vous remarqué ce qui déclenche ces signes du jugement de Dieu qui permet à l'homme de s'enfoncer dans son mal ? Je tremble à l'idée de vous le dire. C'est nous. C'est nous. Ce sont les prières du peuple de Dieu. En réponse à nos prières, jusque à quand, Seigneur, permettras-tu le mal ? C'est ce qui précède les chapitres 8 à 11. En réponse à cette prière, jusque à quand, Seigneur, permettras-tu le mal et l'injustice sur terre ? Certes, Dieu nous répond, patientez un peu. Le jugement dernier arrive. Mais pas seulement. En réponse à nos prières pour la justice et en anticipation du jugement dernier, Dieu juge présentement le monde par les fléaux des six premières trompettes en réponse à notre cri pour la justice. En septembre 2012, Charlie Hebdo publiait une caricature absolument obscène du Dieu trinitaire. Vous pouvez le trouver sur Internet. Je peux même pas le dire, c'est qu'il en est tellement que c'est horrible. Une caricature obscène du Dieu que nous adorons. L'un de mes professeurs s'agenouille alors dans sa chambre et crie « Où est Dieu ? Où es-tu ? Toi, le Dieu de la justice, jusque à quand toléreras-tu un tel mépris à ton égard ?» En janvier 2015, ont eu lieu les attentats de Charlie Hebdo. Que penser ? Comment interpréter cela à la lumière de ce que dit Jean dans notre texte ? Je ne m'aventure pas à poser une affirmation, mais simplement je nous invite à réfléchir. Que penser de cela ? En tout cas, les éléments de notre texte sur le fait que Dieu permet le mal pour juger une humanité rebelle, et le fait que ces jugements sont déclenchés par notre cri pour la justice m'invite à y réfléchir, à me poser quelques questions. Prier pour que Dieu exerce la justice et juge le mal, ce n'est pas du chiquet. Ce n'est pas du chiquet. Où est le Dieu de la justice ? Oui, le Dieu de la justice est à l'œuvre présentement. Mais pourquoi alors ? Pourquoi permet-il de tels fléaux ? Pourquoi permet-il une telle souffrance ? Pourquoi ne porte-t-il pas à son terme tout cela, tout de suite, immédiatement ? C'est tout simplement parce que c'est encore le moment pour lui d'alarmer une humanité rebelle et de réveiller le monde de sa rébellion pour qu'il se détourne du mal. C.S. Lewis, que vous connaissez sans doute, écrivait « Dieu murmure dans nos moments de joie. Il murmure dans nos moments de joie, mais tonne comme le tonnerre dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Et pourtant, regardez, regardez versets 20 et 21 du chapitre 9. Mais le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne renoncèrent pas à leurs meurtres, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. Malgré que Dieu tonne dans la souffrance du monde, malgré que Dieu crie pour dire à l'humanité « Cesse ta rébellion, viens à moi, détourne-toi du mal », le monde reste endurci et têtu. Dieu serait-il en train de tonner dans notre vie, dans ta vie ? Dieu serait-il en train de crier dans ta souffrance ? Alors que certains disent « Puisqu'il y a souffrance, Dieu n'est pas là », Jean nous dit autre chose. Dieu avertit l'humanité qu'elle est en proie au jugement. Comment ? Par des mots qu'il permet, pour un temps. Pour un temps. Avec tremblement, je crois. Et avec tremblement, certainement. C'est la leçon que nous devons tirer d'Apocalypse 8 et 9. Et dans ce contexte de fléau, de maux, de jugement et d'endurcissement, qu'en est-il du peuple de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Tournons nos regards vers les chapitres 10 et 11 qui nous permettent de dégager nos trois autres leçons de cet après-midi. Trois leçons qui correspondent à trois attitudes que Dieu attend de notre part dans un tel contexte. Face au mal qui sévit, à l'injustice qui frappe et à la souffrance, nous sommes tous pétris d'incertitude et de crainte et même de doute, n'est-ce pas ? Que sera le monde de demain ? Qu'adviendra-t-il de nos enfants dans 5 ans ? Qu'en sera-t-il de ma santé dans 10 ans ? Qu'en sera-t-il de mon avenir professionnel dans 15 ans ? Qu'en sera-t-il des valeurs de notre société durant le prochain quinquennat ? Qu'en sera-t-il du monde que nous laisserons à nos enfants ? Autant de questions sans réponse évidente qui suscitent en nous incertitude et crainte. À bon droit. À bon droit. Pourtant, au cœur de tout cela, Dieu attend de nous que nous continuions de croire avec assurance qu'il réalisera son projet. C'est notre deuxième leçon de ce matin. Continuons de croire avec assurance que Dieu réalisera son projet. Car au cœur du chapitre 10 se trouve un serment. Versets 5 à 7. L'ange jura solennellement par celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve. Au jour où retentira la trompette du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs. Au cœur du chapitre 10, qui succède au cadre posé des chapitres 8 et 9, au cœur de ce chapitre 10, Dieu nous fait une promesse. Dieu donne sa parole. Au verset 7, l'expression « le mystère de Dieu » qui est en orange sur l'écran fait référence au projet de Dieu pour l'humanité, un projet révélé en Jésus-Christ dans les événements de l'Évangile. Dieu prête serment cet après-midi. Il nous atteste que ses intentions, son projet de salut, certainement s'accompliront. Au cœur de multiples incertitudes, craintes et doutes, une chose est certaine, inébranlable, Dieu réalisera tous ses desseins. Et notre assurance ne se fonde pas sur nos désirs, sur nos fabulations ou encore nos aspirations intérieures. Non, mais notre assurance s'enracine dans les événements historiques de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. lieu du triomphe de Dieu sur le mal, lieu où Jésus se charge de nos iniquités pour nous faire échapper au jugement de Dieu. Nous le croyons, n'est-ce pas ? Nous le croyons, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est là autant de drapeaux plantés par Dieu dans l'histoire de l'humanité, par lesquels il nous assure ce matin, cet après-midi, qu'il réalisera son projet. C'est pourquoi Dieu attend de nous que nous continuions de croire avec assurance, de croire avec assurance qu'il réalisera son projet. Avez-vous déjà vu la célèbre toile de Picasso, Guernica ? En tout cas, si vous ne l'avez jamais vue, elle apparaît sous vos yeux. L'une des particularités de cette peinture, c'est que l'on retrouve différentes images à valeur symbolique, d'apparence déconnectée d'une de l'autre. Mais Guernica évoque en fait une seule et même réalité, les horreurs de la guerre d'Espagne. Je crois qu'Apocalypse 11, qu'il nous faut considérer à présent, possède la même particularité. Il s'agit d'un grand tableau littéraire, composé de plusieurs images à valeur symbolique, mais qui nous parle d'une seule réalité. L'Église. L'Église. J'en veux pour preuve verset 1, l'image du temple de Dieu, ou encore verset 2, celle de la ville sainte, deux images qui dans l'Apocalypse représentent symboliquement le peuple de Dieu, l'Église. À défaut de trouver une meilleure image, j'ai trouvé que le bâtiment, mais nous savons tous ce qu'est l'Église, n'est-ce pas ? Un peuple avant tout. Mais comment est-elle présentée ? Nous la retrouvons en verset 1, en train d'être mesurée par Jean, munie d'une baguette d'arpenteur. Une image qui symbolise une construction en cours. Autrement dit, de manière littéraire, au cœur de cette vision d'Apocalypse 11, se trouve l'Église de Jésus-Christ en cours de construction. Après l'ascension de Jésus-Christ, jusqu'à son retour. C'est à ce moment-là que se trouve là, cette Église, en cours de construction. Mais sa situation n'est pas des plus favorables. Regardez verset 2. La ville sainte est foulée aux pieds par les nations. Autrement dit, l'Église en construction se trouve également opprimée de la part du monde rebelle à Dieu. Et cela, verset 2, pendant 42 mois. Encore un chiffre à valeur symbolique ici. Mais sortez les calculettes, les amis. Parce que 42 mois, c'est l'équivalent de 1260 jours, déjà mentionné au verset 3 de notre texte. Mais c'est aussi l'équivalent de 3 ans et demi, déjà mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Et là, il y a une allusion au livre de Daniel, chapitre 7, où Dieu annonce que le temps de l'épreuve et de la persécution durera un temps, deux temps et la moitié d'un temps, autrement dit 3 ans et demi. Je suggère donc, avec cette allusion, que nous devons comprendre que 42 mois, 1260 jours, ou 3 ans et demi, ou même 3 jours et demi, dans notre texte, sont des étiquettes, en fait. Sont simplement des étiquettes pour parler du temps de l'épreuve subie par l'Église, par le peuple de Dieu, jusqu'au retour de Jésus-Christ. En résumé, la première image des versets 1 à 2 du chapitre 11 nous parle de l'Église de la ECM et de l'Église du CEP, de Saint-Maur. Un peuple en construction pendant que les fléaux, les chapitres 8 et 9, s'abattent sur un monde rebelle, mais touchent aussi, de près ou de loin, le peuple de Dieu éprouvé par l'oppression de ce monde rebelle. Mais la deuxième image des versets 3 à 6 nous présente le moyen employé par l'Église pour se construire, pour mener à bien la construction entamée et en cours. Regardez versets 3 et 4. L'Église est présentée sous la forme de deux témoins présentés en écho à Zacharie 4, présentés comme les deux oliviers et les deux chandeliers. Vous pourrez relire Zacharie 4 à ce sujet. Mais c'est toujours l'Église qu'il faut voir symboliquement ici. Alors vous me direz pourquoi deux témoins ? Car dans l'Ancien Testament, c'est le minimum requis pour un témoignage fidèle et véritable. Et la mission confiée à ces deux témoins est très claire. Prophétiser. Dire la parole de Dieu. Et là, nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent sur ce que Dieu attend de nous. Là, nos yeux s'ouvrent sur le moyen qui est le nôtre pour construire, pour bâtir, édifier l'Église de Jésus-Christ. Dans ce contexte de fléau, de maux, de jugement et d'endurcissement, qui ne sont pas très loin de nous, Dieu s'attend à ce que nous assumions notre rôle de témoin malgré les difficultés. Et cette Église de l'Apocalypse était tentée d'étouffer ce rôle, d'étouffer cette responsabilité afin d'éviter différentes formes de vicissitudes ou de persécutions ou encore d'épreuves dans leur contexte. Et Jésus nous rappelle ici que notre rôle de témoin ne dépend pas des circonstances ou du prix à payer. Nous sommes appelés à assumer notre rôle de témoin en Église, en famille et individuellement par l'annonce audacieuse de l'Évangile dans un contexte qui sera nécessairement difficile. Pas toujours évident, à minima. Un rôle de témoin assumé en Église, en famille et individuellement par le vécu courageux de ce que signifie au quotidien, dans un monde rebelle à Dieu, Jésus est Seigneur. Et je crois que notre plus grande tentation aujourd'hui est d'étouffer ce rôle pour éviter toutes sortes d'épreuves, de frustrations. C'est la tentation qui frappe à nos portes tous les jours, dans nos différents contextes de vie. Comment est-ce que nous la gérons, cette tentation ? Comment est-ce que nous la gérons ? J'aimerais vous dire, et cela me renvoyait à moi-même, et cela me renvoie à moi-même. Si nous prions pour l'Église persécutée, mais que nous ici nous bridons, nous brimons notre rôle de témoin pour éviter rejet, moquerie, ou encore favoriser notre ascension professionnelle ou notre acceptation par les autres, alors je ne pense pas que nous assumions notre rôle de témoin. Et je crois même que nous sommes peut-être un petit peu hypocrites sur les bords. Et peut-être moi le premier. Hypocrite à l'égard de ces frères et sœurs pour lesquels nous prions alors qu'ils sont persécutés en qualité de témoins de Jésus-Christ. De l'opposition dans notre rôle de témoin, il y en a toujours eu et il y en aura toujours et nous devons apprendre à vivre avec cela. Ça fait 2000 ans que cela dure. Et l'image des versets 7 à 10 est très forte dans notre texte. Je ne le projette pas parce que... Mais vous pourrez relire ça. Elle donne l'impression d'une Église anéantie dans l'exercice de sa vocation. Regardez verset 7. L'Église subit la colère de la bête. Ça y est, elle fait irruption. Elle n'avait pas encore fait irruption dans le livre de l'Apocalypse, mais elle fait irruption ici et elle apparaîtra encore dans les chapitres 13. Une bête dont l'œuvre est incarnée par le monde rebelle à Dieu, qui se tient, verset 8, au sein de la grande ville appelée Sodome et Égypte. Alors pour faire simple, cette grande ville représente donc à la fois aucune ville précise, mais aussi toutes les sociétés caractérisées par le rejet de Dieu. Et verset 10, nous lisons, tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. On parle des deux témoins ici, qui représentent le peuple de Dieu. Ils échangeront des cadeaux, car ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. Nous avons là rien de moins qu'un Noël païen. Peut-être que nous ne sommes pas confrontés à ça ici en France, mais dans un certain pays du monde, certains opposants aux témoins de Jésus-Christ se réjouissent et célèbrent la mise à mort des témoins de Jésus-Christ. C'est un véritable Noël païen. C'était le cas au premier siècle, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Peut-être pas en France, mais dans certains pays du monde. À la lumière de ce texte, nous devons reconnaître que nous sommes et nous serons toujours le caillou dans la chaussure du monde. Nous sommes et nous serons toujours le caillou dans la chaussure du monde. Vous savez, ce caillou qui vous gêne quand vous êtes en randonnée. Regardez, ces deux prophètes, donc le peuple de Dieu, représentant du peuple de Dieu, leur ont causé bien des tourments au monde. Nous sommes toujours et nous serons toujours le caillou dans la chaussure du monde. Si le monde s'oppose au témoignage de l'Église et l'opprime ou veut la faire taire, c'est parce que le message qu'elle porte dérange et dérangera toujours. Proclamer que la vérité est unique et universelle et vaut pour tous dérange. Proclamer que Dieu a révélé sa pensée dans la Bible et que nous devons aligner les nôtres sur les siennes dérange. Appeler péché ce que la société juge bon, eh bien, dérange. Annoncer que Dieu jugera chaque humain en fonction de ses critères, à lui, avec un grand L, dérange. Annoncer que Dieu pardonne le mal commis seulement au prix de la mort expiatoire du Christ, dérange. J'affirme volontiers que l'exercice assumé de notre rôle de témoin marche et marchera toujours main dans la main avec certaines formes de persécution sous toutes ses formes ou de rejet. Prendre part au royaume de Dieu, être mis au bénéfice de la grâce de Dieu et vivre en disciple de Jésus, c'est aussi accepter pour un temps, pas indéfiniment, mais accepter pour un temps de porter son opprobre, de marcher dans ses traces. Nous souffrirons toujours, plus ou moins, pour un temps, dans l'exercice de notre rôle de témoin. Je le concède. Entendre la parole de Dieu peut être douloureux parfois, mais le réalisme et l'honnêteté de notre Dieu me satisfera toujours. J'aimerais qu'elle me dise autre chose, mais elle ne me dit pas ce que je veux entendre toujours. Elle est réaliste quant à notre rôle de témoin. Mais notre texte ne s'arrête pas là. Les versets 11 à 13 du chapitre 11 sont diversement interprétés. Et je vous livre mon interprétation. On peut comprendre différemment. Vous vous souvenez, alors qu'au chapitre 9, versets 20 à 21, nous avions une humanité qui refusait de voir les mots comme l'alarme, le mégaphone de Dieu pour dire « Eh oh !» Réveille-toi, détourne-toi du mal. L'humanité refuse, et aujourd'hui encore, elle refuse, pour la plupart. Nous avons une humanité endurcie face au fléau, face au jugement de Dieu. Une humanité dans le refus d'abandonner le mal. Ici, au verset 13, je pense que nous avons un renversement. Parce que les fléaux que Dieu permet, les mots que Dieu permet ne suffisent pas. Nous avons ici, au verset 13, un renversement, une conversion d'une part de l'humanité endurcie, verset 13. Ils rendirent gloire au Dieu du ciel. Et quel moyen Dieu a utilisé pour la conversion de ces personnes? L'opprobre assumé des deux témoins, celui de l'Église. Chers amis, Dieu se sert de l'exercice assumé de notre rôle de témoin souffrant à l'image de Jésus-Christ, aller à l'image du Maître lui-même pour questionner, interroger nos contemporains et toucher à salut. En effet, celui qui persévère alors que tout semble contre lui, questionne, interroge. Assumerons-nous ce que Jésus a fait de nous? Des témoins bien souvent souffrants dans ce monde. Qu'est-ce que cela changera dès lundi? Au bureau, dans nos relations, dans nos différents contextes. Écoutez ce que Paul écrivait aux Philippiens. Je n'ai pas trouvé de phrase plus explicite sur ce que je suis en train de dire. Écoutez ce que Paul écrivait aux Philippiens. Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en Jésus-Christ, mais encore de souffrir pour lui. Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en Jésus-Christ, mais encore de souffrir pour lui. Assumons notre rôle de témoin, malgré les difficultés. Alors si comme moi vous êtes en train de vous dire les mains sur la tête, mais c'est trop dur Seigneur, parce qu'effectivement c'est le cas, c'est dur, c'est pas simple, c'est précisément là que surgit la trompette numéro 7 avec notre dernière leçon pour ce matin. C'est trop dur Seigneur d'être un témoin souffrant dans ce monde. Hop, la trompette numéro 7 fait son apparition. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Seigneur des Anneaux, peut-être, sans doute, et notamment le numéro 2, les deux tours. À la fin de ce film-là, les héros sont assiégés dans la forteresse du gouffre de Helm, luttant contre une armée d'orques sanguinaires. L'avenir s'annonce sombre pour les protagonistes, les héros de l'histoire, et les assiégés reconnaissent volontiers que la forteresse ne pourra plus tenir longtemps. Ils s'apprêtent, dans le film, ils s'apprêtent à mourir. Or, tout à coup, ils lèvent les yeux et aperçoivent un personnage vêtu de blanc qui vient vers eux du sommet de la colline. Tout à coup, leur visage s'illumine. Les renforts arrivent, avec à leur tête un dénommé Gandalf. Son apparition soudaine apporte délivrance, reconnaissance et victoire aux héros. Voilà ce que nous vivrons au retour du roi, au retour de Jésus-Christ. Et dans ce contexte de fléau, de maux, de jugement et d'endurcissement, mais aussi de conversion, et de conversion grâce à notre rôle de témoin, souffrant quelque part, continuons de porter nos regards vers la finalité. Continuons de porter nos regards, notre regard vers la finalité. C'est la quatrième leçon ce matin. Verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Messie. Il régnera éternellement. Un jour viendra. Et le texte que nous avons lu d'Ésaïe 25, tout à l'heure, anticipe ce jour où cette trompette retentira. Un jour viendra où il n'y aura plus de monde rebelle. Un jour viendra où il n'y aura plus de fléau, plus de maux, plus de jugement, plus d'endurcissement et plus besoin de conversion non plus. Et plus de rôle de témoin difficile à accomplir. Et ce jour-là, nous ne verrons plus non plus de larmes couler sur le visage de nos proches, sur le visage de nos enfants, sur le visage de nos amis, sur le visage de ceux que nous aimons. Car verset 18, Dieu, les hommes seront jugés, les croyants seront récompensés pour leur témoignage fidèle malgré les difficultés, pour leur fidélité, leur refus du compromis, et ceux qui détruisent le monde seront détruits. Il n'y aura plus de mal, plus de rebelles. En ce jour, Dieu ne tolérera plus ni mal, ni injustice. En ce jour, l'Église faible d'aujourd'hui participera au triomphe de Jésus-Christ. Difficile peut-être pour nous d'appréhender vraiment ce jour, mais il viendra. Il viendra. Le triomphe total de Dieu sur le mal viendra. Il viendra. Il viendra. C'est pourquoi continuons. Continuons de porter nos regards vers la finalité. Celle-ci nous gardera fidèles dans notre rôle de témoin souffrant. Je vous invite à prier. Encore aujourd'hui, notre Dieu, notre Père, toi qui n'es pas cause du mal, tu le permets. Tu le permets pour alarmer une humanité rebelle qui s'enfonce toujours plus dans le mal. Et tu souhaites nous utiliser pour que, dans cette situation, nous portons le témoignage de ta parole, que nous assumions notre rôle de témoin individuellement, en église, en famille, pour porter ta parole à nos concitoyens. Accorde-nous le courage dont nous avons besoin. Accorde-nous le courage, un courage motivé par la perspective de ton retour, de ton triomphe sur le mal. Accorde-nous le courage nécessaire, pleinement assuré que tu réaliseras ton projet. Aide-nous, Père, à continuer de croire que c'est le cas. Aide-nous, Père, à assumer notre rôle de témoin. Aide-nous, lorsque c'est difficile dans l'exercice de ce rôle, à porter nos regards vers la finalité, vers ton triomphe. Aide-nous à aimer nos contemporains malgré leur endurcissement, malgré leurs mots difficiles et douloureux à notre égard, malgré tout ce qu'ils peuvent dire de toi. Aide-nous à les aimer et ainsi à les questionner par notre persévérance et notre courage dans l'exercice de notre rôle de témoin. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire et le bien de notre monde. Amen.